Merci déjà pour ton introduction, Alain, qui va dans le droit fil de ce que je voulais partager ce matin, en tout cas qui le complète. Merci à Agnès pour la louange. Où c'est je pense, il me semblait que ce qui se dégageait de chacun de ces chants que nous avons exprimés, c'était vraiment la gloire de Dieu, le règne de Dieu, la royauté du Seigneur dans nos vies, dans ma vie. Et là aussi, on est en plein dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, il m'importe de vous dire un peu, pour moi c'est important, comment je reçois les choses que le Seigneur veut que je partage. Et là, en réfléchissant, en lisant la parole, en priant, eh bien, je me suis souvenu aussi d'un message qu'un frère nous avait donné alors que nous habitions le sud-ouest de la France. Et ce message avait été donné, je crois, le 17 juillet 2016 par ce frère qui était aussi nos meilleurs amis, lui et sa femme. Étaient nos meilleurs amis là-bas en bas. Ils sont déjà venus nous voir deux fois ici dans le Jura. Et le thème de ce message dont je me suis inspiré, en tout cas en partie, c'était « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Et ça prend une couleur différente, une signification différente. Ces versets de la Bible que nous connaissons, pour beaucoup que nous connaissons par cœur, peut-être depuis de longues années même, quand les choses de la vie ne vont plus très bien, quand tout s'écroule, quand nos points d'appui partent, disparaissent, et là c'est vrai que ça a une signification tout autre. En particulier pour ce très cher frère, Jean-Claude. Lui, il a eu une vie bien remplie professionnellement parlant. Il passait, je pense, une bonne partie de sa vie professionnelle dans les avions pour rencontrer souvent des généraux d'armée à gauche, à droite, sur la planète, parce qu'il était bon directeur commercial d'une firme française qui produisait des produits pour l'aviation militaire en particulier. Son épouse Anne, elle était prof d'anglais et d'espagnol. Et ils eurent trois enfants, deux garçons brillantissimes, on peut le dire, et une fille trisomique, la petite dernière. Et ça a été déjà la première épreuve dans leur vie pour se dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à accepter cet enfant différent. Et puis, alors qu'il en parlait à un de ses amis, il dit, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et le frère lui répondre, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Aujourd'hui, Anne, son épouse, donc, est atteinte d'un Parkinson atypique rigidifiant. Et je vous ai dit tout à l'heure, on les a eus deux fois à la maison. Quand elle est à table avec nous, elle peut manger seule encore pour l'instant, mais c'est comme si elle était aveugle. Elle sent les choses avec son couteau, la fourchette, puis elle approche de. Elle a des yeux, elle voit, mais tout est ralenti, tout est ralenti. Même le clignement des yeux, tout est ralenti. C'est comme ça. Et en pensant donc à ce sujet qu'il nous avait partagé, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, je me suis dit oui, combien c'est une réalité pour lui. Ces dernières 5 semaines, je me suis rendu 3 fois en Suisse auprès de ma sœur qui a été hospitalisée pour, semble-t-il, deux pathologies, une mentale et l'autre physique. Et puis, je l'ai quitté mardi de cette semaine passée, mardi dernier, et deux jours après mon départ, eh bien, elle demandait à être hospitalisée dans un hôpital psychiatrique où notre papa est décédé après un séjour d'environ 18 mois. Donc, ceci pour dire que lorsqu'on touche de près cette faiblesse que le Seigneur peut permettre, il peut tout, ça n'enlève rien, il est tout puissant, il a ressuscité Lazare, on l'a entendu encore dans les paroles d'Agnès tout à l'heure, quand il disait à ses disciples, déliez-le, laissez-le aller. Voilà, Lazare était debout. Mais c'est quand on touche ces réalités-là qu'on comprend peut-être mieux ce qu'est la véritable faiblesse. Alors, avant encore de lire le texte qui nous concerne ce matin, j'aimerais qu'on fasse un petit test. Ce n'est pas une épreuve écrite, n'ayez pas peur. Ça sera oral et ça sera très gentil, vous verrez. Mais ce texte, eh bien, ça fait écho à cette parole dans les 2 Corinthiens où Paul dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Et puis, il va même un peu plus loin. Jusque-là, bon, on comprend encore à peu près ce que ça veut dire, à peu près, je dis bien. Mais il va encore un peu plus loin quand il dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je me plais. » Alors, ma question, qui est-ce qui peut prendre plaisir lorsque vous avez la possibilité, vous vous la donnez, pour aller vous reposer, flâner, marcher en pleine nature, parc animalier, que ce soit au bord de la rivière, je pense à Réjeanne, que ce soit dans les Alpes, pour ceux qui aiment la montagne, qui aiment skier, qui est-ce qui d'entre nous prend plaisir? On peut lever la main. Moi, je prends plaisir. Hein. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Maintenant, une autre question, qu'est-ce qui prend plaisir quand il est faible? Là, je ne vois pas de main. Quand il est outragé, non plus. Quand on se moque de lui, quand on l'humilie, quand il est victime de calamités, de persécutions, et la réponse, elle est non, mais c'est évident. C'est un peu sot comme question. Pourtant, Paul dit, je prends plaisir à, ou je me plais dans. Et j'ai voulu vérifier dans les concordances, dans les dictionnaires, dans tout ça, si c'était bien la bonne traduction. Je me suis dit, c'est peut-être pas tout à fait bien traduit. Apparemment, c'est très bien traduit. La Bible a noté, l'exprime légèrement autrement. Elle dit, c'est pourquoi je prends plaisir. Je prends plaisir, oui. C'est pas que je me plais, mais je prends plaisir dans les infirmités, dans les opprobres, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les angoisses. Je prends plaisir. Est-ce que Paul était masochiste? Je ne pense pas. Alors, j'aimerais qu'on puisse maintenant lire le passage en question. Je vais demander, Hervé, tu veux nous le lire, s'il te plaît? 2 Corinthiens, tu peux venir ici si tu veux. 2 Corinthiens 12, 1 à 10. Merci.
Ta traduction?
Oui, oui, si tu veux bien. Oui, ça va là-dedans. Mets-toi là aussi, que tu vois assez bien. 1 à 10. Oui.
1 à 10. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Merci Hervé. Impeccable. Donc, dans ce chapitre 12 qui suit le chapitre 11, c'est vérité à la palisse. Et Paul prend un peu le contre-pied pour se défendre parce qu'apparemment, bon, il doit manquer une épître, quelque chose qu'on n'a pas, je pense, perdu, qu'on n'a pas eu. Mais les chrétiens de Corinthe, bon, il les a évangélisés, il a témoigné auprès d'eux, il les a amenés au Christ. Et puis, lui, il a continué sa tournée et d'autres apôtres se sont présentés pour être peut-être un peu les responsables de cette communauté et se sont mis à dénigrer Paul pour que les gens puissent être derrière eux et les soutenir. Et puis, ben, il ne fallait pas de rival, il ne fallait pas de rivaux. Donc, Paul s'en défend un peu. Dans le chapitre 11, il témoigne un petit peu aussi de ce qu'il a vécu, sa vie avec le Christ. Trois fois, j'ai été battu de verges, j'ai été lapidé, j'ai fait naufrage, j'ai passé une nuit dans l'abîme, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais etc., etc. Toutes ces difficultés qui étaient là sur sa route, et tout le temps, et encore, et toujours, il a continué le chemin, il n'a pas renié son Dieu, il a continué de lui faire confiance pour en arriver à ce point où même ces calamités, ces difficultés, toutes ces choses, eh bien, c'est bien. Au final, c'est bien. En tout cas, personnellement, j'en suis pas là. Pas encore. Je vous redonnerai encore un ou deux mots de témoignage. Donc, le premier point qu'on peut remarquer, c'est que Paul met en évidence, il est contre une théologie de la gloire. C'est évidemment dans le droit fil de l'attitude de Jésus reportée par les évangélistes, lui, le Christ, qui ne s'est pas révolté d'être mis au nombre des malfaiteurs. Jésus n'a donc tiré aucune gloire personnelle, ce qui est la marque du Messie, dans la veine de ce que dit le prophète, aussi le prophète Ésaïe en particulier. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et cet autre passage de... C'est encore Paul, dans Philippiens chapitre 2, qui est encore plus fort peut-être. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même. La gloire, on l'a chanté dans les chants, dans le temps de louange, la gloire est à Dieu, pas à ses lieutenants. C'est la raison pour laquelle Paul va disqualifier ces super apôtres qui se prévalaient d'être eux des vrais apôtres, d'avoir des droits, etc. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Quand on se sent fort, on n'a besoin de personne, vous êtes bien d'accord. On peut faire nous-mêmes, on n'a besoin de personne. Rien ne peut nous résister, alors que quand on est faible, on se sent fragile. Et ce n'est pas confortable. On recherche de l'aide pour accomplir ce que nous devons faire. Mais attention, attention cependant à la relativité des difficultés, où on peut se sentir très fort pour certaines choses et faible pour d'autres. Alors Dieu vient à nous sous les traits d'un nouveau-né qui n'a même pas de place pour naître convenablement. Dieu vient à nous sous les traits de prophètes qui, comme Jean-Baptiste, devaient faire peur de par son aspect ou sa façon de vivre. Dieu vient à nous par Moïse, le bègue, Jacob, le fourbe, Jonas, le trouillard, ses disciples traitent à Jésus. Le salut est aussi entré par ce vaurien de Zachée. Le paradis est promis à ce brigand condamné à mort aux côtés de Jésus. Faiblesse, encore faiblesse, toujours faiblesse. Force nous est de constater que ce ne sont pas des hommes qui manifestent le divin, mais ce que notre monde compte de moins glorieux. Les textes bibliques développent une option préférentielle pour les faibles. Jésus ira jusqu'à dire « Ce ne sont pas les bien portants. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Jésus n'est pas venu chercher, appeler les nuls. Non, pardon, Jésus n'est pas venu pour les nuls. Il est venu pour les nuls, pour les malades, les exclus. En un mot, pour les faibles. Il y a dans la perspective biblique une option préférentielle pour les faibles, pour ce qui a le moins de poids dans la société. Ce qui s'affirmait déjà depuis la Genèse, avec Adam et Ève, Abel. Abel signifie buée et aussi fragilité, évanescence, quelque chose qui tient à peine debout, qui va s'évanouir, qui va disparaître. Et c'était bien là, avec Abel, qu'il y a une postérité en dépit de sa fragilité constitutive et de la violence qu'il subira par son frère. Ça se confirme aussi par la suite. L'Éternel prend soin de ceux qui sont menacés de famine, de stérilité, d'extinction. Je pense aussi à ce passage dans le livre d'Ézéchiel où on voit, chapitre 37, où on voit tout un champ, tout un peuple, mais ce n'est que des eaux desséchées. Des eaux qui, peu à peu, vont reprendre de la chair, des muscles, se mettre en place, se réunir, et finalement, où Dieu insuffle son esprit. L'Éternel fait advenir ce qui a peu d'intérêt pour le regard superficiel des hommes. À vrai dire, l'option préférentielle de Dieu pour les faibles, c'est une manière de dire qu'il s'agit de l'option préférentielle pour l'humanité tout entière. Que ce soit le poète qui dit que tout est buée, que tout est fragilité, ou que ce soit le psaume, j'aimerais juste encore lire ces deux, trois versets dans le psaume 103. Verset 15, à partir du verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Et le verset qui suit, par contraste, par opposition, il dit, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. La bonté de l'Éternel dure éternellement. La condition de l'homme est bel et bien fragilité, vulnérabilité. Et que dire du plus faible que les faibles que nous sommes? Je pense aux personnes handicapées. Je sais que cette parole du pasteur John Bost qui disait « Ceux que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon maître ». On a vu aux infos cette semaine, je ne sais plus comment il s'appelait ce jeune homme sur TF1, là, où on voyait un jeune homme qui briguait la médaille d'or en natation aux Jeux paralympiques. Je ne sais pas si vous avez vu cette info. Encore une leçon de courage, de grand courage pour eux. Ce qui est faible, pour ce qui n'a pas beaucoup de valeur. Au mois de janvier, c'était le dimanche 13 janvier, je vous ai partagé ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur, comme ce matin je l'ai fait tout à l'heure. Et il avait déposé avec ces paroles qui sont revenues plusieurs fois ce matin, « Déliez-le, laissez-le aller ». Agnès nous proposait les uns les autres d'avoir cette simplicité de cœur, d'aller vers un frère, d'aller vers une sœur, puis lui dire « je voudrais que tu pries pour moi ». Peut-être même que nous oserions nommer, c'est déjà une étape plus difficile. Mais je sais que pour la façon dont le Seigneur m'avait interpellé au début de l'année 2019, c'est par l'absence de certains fruits de l'esprit. Et je vais vous le dire, je vais vous le confesser. Vous connaissez bien ce passage, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Eh bien, je peux vous dire que on peut connaître pendant 50 ans, parce que moi ça fait plus de 50 ans que j'ai confié ma vie à Jésus-Christ, je vous l'avais raconté un tout petit peu, donc c'était vraiment dans les toutes premières années de ma vie, que j'ai entendu le message, et pourtant, tout au long, année après année, tout au long de l'année, et pourtant des liens forts, des chaînes restaient encore dans mon cœur. On peut savoir les choses théoriquement, on sait tous plein de choses en théorie, je pense, enfin, la plupart, on sait pas mal de choses, mais en pratique, c'est autre chose. Et là, le point que le Seigneur m'a souligné il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, aucune maîtrise de moi, et en particulier dans mon couple. Donc ça veut dire que j'étais capable de me mettre en colère, fortement, violemment. Donc aujourd'hui, et c'est pour ça aussi donc, que j'étais... incité et que j'ai eu à cœur de partager ce message sur la faiblesse. Oui, que le Seigneur puisse vraiment produire ses fruits dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous invite, m'invite à rester confiant en lui, malgré les faiblesses qui sont les nôtres et qui sont les miennes. Je vous ai, en début de ce message, je vous ai donné deux exemples. Ce couple, Jean-Claude et Anne, qui vivent au quotidien cette faiblesse. Je vous ai parlé de ma sœur, qui le vit d'une façon très profonde. Ça aussi, ça m'a énormément touché. J'aurais pu vous parler de moi. Mercredi dernier, j'étais à l'hôpital à Dole pour une IRM du cerveau. Et une des phrases du radiologue qui interprète l'imagerie, c'était « sévère atrophie cortico-sous-corticale globale ». Je sais à peu près ce que ça veut dire en français courant. C'est pas je trouve pas forcément besoin de vous le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne laisse pas forcément présager quelque chose d'heureux et de bon pour ces années, si Dieu me prête vie, ces années qui sont devant moi. Alors j'avais tellement besoin de ce message pour moi-même, avant de vous le confier à vous. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, oui. Quel était le but de l'écharde dans la vie de Paul? Vous pouvez me dire, j'attends votre réponse. Quel était le but de l'écharde dont Paul était frappé? Je ne sais pas comment l'exprimer différemment. Oui, tout à fait. Afin, l'humilité, afin de m'empêcher de m'enorgueillir. Oh là là! Eh bien, si ça doit passer par là. Oui, pourtant. Et pourtant, pour Paul, c'est passé par là. Il aurait bien voulu en être délivré, libéré. Oh oui, il l'a demandé. Il l'a demandé trois fois, après il a compris. Il a compris. Je vous lis un des psaumes. Je pense que c'est David qui l'a écrit, celui-là. C'est dans psaume 119, si jamais vous voulez le relire après chez vous. Au verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Quatre versets plus loin, « Il m'est bon d'être humilié. » Quatre versets plus loin, « C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Et ben voilà, quel programme, mes amis, quel programme, que le Seigneur nous vienne en aide. La grâce, œuvre de justice infinie. La grâce pour tous n'a pas les mêmes effets pour tous. Nous n'en sommes pas tous au même point dans notre cheminement spirituel, c'est évident. C'est un soin personnalisé, un accompagnement. Car nous sommes tous quelque part handicapés. Ce qui fait aussi écho à cet oracle d'Ésaïe, chapitre 43, chapitre 45, « Je t'appelle par ton nom ». Et ce matin, c'est la parole que j'aimerais vous laisser. Et là aussi, Agnès y a fait allusion dans la façon de conduire la louange quand elle a proposer que nous puissions en toute simplicité aller vers un frère, aller vers une sœur pour lui demander la prière. Je t'appelle par ton nom, je te nomme. Le Seigneur veut nous conduire plus loin avec lui. Le Seigneur veut nous conduire toujours plus près de lui, c'est certain. Si je fais une prière, on va dire, généralisée, du type... Seigneur, oui, c'est vrai, je veux plus de toi, c'est vrai. Là, bon ben, c'est bien, c'est dans les clous, c'est dans les normes, on risque pas grand-chose. Par contre, si on accepte que le Seigneur puisse nous appeler par notre nom, comme disait Alain, il nous connaît chacun, on est tous différents, il voit, vous croyez que le Seigneur ne voyait pas la colère qui m'habitait et cette absence de maîtrise de soi? Vous croyez qu'il ne le voyait pas, ça? Ben, bien sûr qu'il le voyait. Il a fallu que je puisse le reconnaître. Seigneur, viens à mon secours, délie-moi, délivre-moi. Il le fait. Je peux vous dire qu'il le fait. Ma femme n'est pas là pour en témoigner, mais il le fait. Oh, je ne suis pas parfait encore. Non, non, attendez, les ailes, non, ne sont pas là. Ne vous inquiétez pas. Mais, oui, il agit. Vous aurez compris qu'il ne s'agit pas de pratiquer l'affaiblissement généralisé, presque fallacieux, que cela nous permettrait d'être d'autant plus justifiés, d'être d'autant plus au bénéfice de la grâce divine. Et surtout de mal comprendre que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tout au contraire, cela consiste à ne pas nier ce que nous sommes afin de bénéficier et de faire nôtre toutes les promesses, celles de Jean 11 avec Lazare, par exemple, et toutes les autres que Dieu nous a données. Grâce d'être relevé, grâce d'être restauré dans notre dignité, grâce de pouvoir devenir une personne capable de faire des choses. Au lieu de convenir de leur véritable état, ces super apôtres auquel Paul veut opposer ce que lui a fait. Permettez-moi un grain de folie, dit-il. Si eux peuvent se glorifier, ben je peux me glorifier davantage. Voilà ce que le Seigneur a fait. Voilà les révélations qu'il m'a accordées. Eh bien, il se coupe de l'humanité véritable. Créatures que nous savons faibles par essence, ils deviennent sectaires. Paul, lui, face à Dieu, baisse la garde, ne s'enferme pas dans sa superbe, laissant ainsi à Dieu la possibilité d'intervenir dans sa vie. Avec lui, nous savons bien que nous ne pouvons rien faire seuls et que nous avons besoin d'un accompagnement. Je me souviens quand j'avais fait une école biblique il y a un peu plus de 50 ans à Genève, et un des versets, une des paroles avec laquelle je n'étais pas d'accord dans la Bible, il y a des choses, puis entre étudiants, on discutait, voilà. Mais pour moi, il y en avait une, c'était ce verset où Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais je me suis dit « Non, mais là, attends, Seigneur, t'as glissé un peu, t'as pas voulu dire ça exactement. On peut quand même faire des choses. » C'est par cette humilité véritable que je vais recevoir de Dieu ce que le théologien Paul Tillich appelle le courage d'être, ce courage qui me permet d'accepter, d'être accepté, en dépit du fait que je suis inacceptable. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.